Chapitre 37. Cela faisait à présent 3 jours qu'Irène n'était pas sortie de chez elle. 3 jours ou 4? Elle n'était pas sûre. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était épuisée. Le réfrigérateur était vide, mais elle ne se sentait pas la force de sortir et d'affronter le supermarché, le bruit, tous ces gens. Elle n'avait même pas l'énergie de se lever de son fauteuil et de monter jusqu'à sa chambre pour dormir. Pourtant, elle ne rêvait que de ça. Alors elle restait assise à côté de la fenêtre, ses doigts triturant sans relâche le bord de la couverture posée sur ses genoux. Elle pensait à William, dont elle avait entendu la voix peu de temps auparavant, lorsqu'elle s'était rendue à la cuisine, frigorifiée, pour voir si elle n'avait pas laissé son gilet en laine sur le dossier d'une chaise, comme cela lui arrivait parfois. Et là, parfaitement distincte, la voix de William avait résonné.
« Un petit thé, Rennie ?»
Irène était partie de chez Theo Meyerson, proprement bouleversée. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis, mais elle ne s'en était toujours pas remise. Il y avait eu un moment, bref, mais néanmoins terrifiant, où elle avait vraiment cru qu'il allait lui faire du mal. Il s'était avancé vers elle, bras tendus, et elle avait presque pu sentir ses doigts se refermer sur son cou. Elle s'était ratatinée de terreur. Il l'avait remarqué, elle en était sûre. En fin de compte, il l'avait entourée de ses bras avec une douceur presque maternelle, l'avait aidée à se relever et il l'avait installée sur le canapé. Il tremblait comme une feuille. Après quoi, sans lui accorder un regard, il s'était accroupi devant le poêle et avait arraché une à une les pages du carnet de Daniel pour les jeter dans les flammes. Au bout d'un moment, elle était partie dans le taxi qu'il lui avait commandé. Pendant tout le trajet, elle s'était sentie honteuse du mal qu'elle avait fait à ce pauvre homme et avait songé qu'elle aurait difficilement pu lui en vouloir s'il s'en était pris physiquement à elle. Mais il y avait eu pire encore que cette fin d'après-midi cauchemardesque. Quelques jours plus tard, Irène avait reçu un appel d'un avocat lui annonçant que Laura Kilbride devait être libérée et lui demandant si elle pouvait venir la chercher dans la journée à la prison de l'Est de Londres où elle avait été placée en détention provisoire. Irène avait failli sauter de joie. Elle était tellement contente, tellement soulagée. Mais le même avocat avait rappelé peu de temps après, alors qu'Irène venait de réserver le taxi, pour lui annoncer que finalement, Laura ne serait pas libérée, parce qu'elle avait été victime d'une très grave agression et qu'elle devait être transférée d'urgence à l'hôpital. Irène avait été si bouleversée qu'elle n'avait demandé ni le nom de l'avocat, ni le nom de l'hôpital. Et lorsqu'elle avait rappelé la prison pour obtenir ces informations, la personne qu'elle avait eue au téléphone avait refusé de les lui communiquer, sous prétexte qu'elle n'était pas de la famille de Laura. Depuis lors, Irène n'avait rien mangé et elle n'avait pas fermé l'œil. Bref, elle était dans tous ses états. À vrai dire, elle avait surtout le sentiment de flotter hors d'elle-même, de vivre des événements qui n'étaient pas réels, comme si elle les lisait dans un journal ou qu'elle les regardait se dérouler sur un écran de télévision, de loin et de haut à la fois. Elle retrouvait une sensation qui lui était familière, celle de se trouver au bord d'un précipice, de commencer à glisser vers un autre état de conscience, où le monde réel s'estompait pour laisser place à un lieu effrayant, perturbant et dangereux, mais un lieu où elle savait qu'existait la possibilité de peut-être revoir William. Les paupières d'Irène étaient de plus en plus lourdes. Son menton se rapprochait dangereusement de sa poitrine lorsqu'elle perçut soudain une ombre devant sa fenêtre qui l'attira de sa torpeur. Dans l'allée, Carla fouillait dans son sac à main. Irène se pencha et tapota le carreau. Carla sursauta, vit Irène et la salua d'un hochement de tête, sans sourire. Irène lui fit signe d'attendre, mais Carla se retourna. Elle avait dû trouver ce qu'elle cherchait, la clé de la maison d'Angela sans doute, et disparut. Irène se laissa retomber dans son fauteuil. Une partie d'elle aurait voulu abandonner, aurait voulu oublier. Après tout, Laura n'était plus soupçonnée du meurtre de Daniel, même si le mal était fait. La police avait désormais un nouveau suspect en la personne de Theo Meyerson. C'était dans tous les journaux. Il n'y avait pas encore eu de mise en examen, donc la police n'avait pas donné de nom, mais le secret avait fuité. Un photographe opportuniste avait pris un cliché de Meyerson sortant d'une voiture de police. Et si l'on ajoutait à cela l'information selon laquelle un homme de 52 ans, résidant dans le quartier d'Islington, avait été placé sous le statut de témoin assisté et le fait que toutes les poursuites contre Laura Kilbride avaient été abandonnées, il n'y avait vraiment plus de place pour le doute. Pauvre Théo. Irène ferma les yeux et repensa au choc sur son visage lorsqu'il avait vu les dessins dans le carnet. L'espace d'un instant, elle éprouva de la culpabilité. Puis, les yeux toujours clos, elle se vit, elle. Elle imagina qu'elle se voyait de l'extérieur de la pièce, depuis la rue, comme lorsque Carla Meyerson l'avait regardée un peu plus tôt. Qu'aurait vu Carla ? Une petite vieille, seule et effrayée, qui regardait dans le vide en ne pensant à rien, ou alors peut-être au passé. Et là, dans son imagination, se trouvait la plus grande crainte d'Irène. Être réduite à un cliché du troisième âge, une personne fragile, sans espoir, sans avenir, sans projet, assise seule dans un fauteuil confortable, avec une couverture sur les genoux, dans la salle d'attente de la mort. « C'est pas bientôt fini, ces conneries ?» aurait dit Laura. Irène se leva et tituba jusqu'à la cuisine, où elle se força à boire un verre d'eau, avant d'avaler deux biscuits au chocolat plutôt rance et la moitié d'un troisième. Après quoi, elle se prépara un thé, versa deux grosses cuillerées à café de sucre dans la tasse et but le tout. Elle attendit quelques minutes que le sucre fasse effet, puis, requinquée, elle ramassa son sac à main et les clés d'Angela, sortit de chez elle, fit les quelques pas qui la séparaient de la maison voisine et, aussi fermement que le lui permettaient ses petites mains arthritiques, elle frappa à la porte. Comme elle s'y attendait, il n'y eut aucune réponse. Elle glissa donc la clé dans la serrure. « Carla ? » appela-t-elle en pénétrant dans le vestibule. « Carla, c'est Irène. J'ai besoin de vous parler. » « Je suis là. » La voix claire de Carla, toute proche, semblait venir de nulle part. Irène eut un mouvement de recul et faillit trébucher sur le seuil. « Là-haut, » précisa Carla. Irène s'avança de quelques centimètres et leva la tête. Assise au sommet de l'escalier, Carla triturait des peluches sur la moquette. On aurait dit un enfant échappé de son lit. « Quand vous m'aurez dit ce que vous avez à me dire, vous n'aurez qu'à déposer la clé dans la cuisine, » déclara-t-elle sans regarder Irène. « Vous n'avez pas le droit de pénétrer dans cette maison quand ça vous chante. »«
Vous avez raison, » approuva Irène.
Puis elle s'approcha de l'escalier et, une main sur la rampe, elle se baissa pour poser la clé sur la troisième marche.
« Et voilà. »
« Merci. » Carla cessa momentanément de triturer la moquette et observa enfin Irène. Elle n'avait vraiment pas l'air bien. Brisée, la peau grisâtre, les yeux injectés de sang. « Il y a des journalistes devant chez moi, » lâcha-t-elle d'une petite voix irritée. « Et la police est en train de tout retourner chez Théo. C'est pour ça que je suis venue ici. Je n'ai nulle part où aller. » Irène ouvrit son sac à main et se mit à fourrager à l'intérieur. « Est-ce que vous avez quelque chose d'autre pour moi, Irène ?» demanda Carla d'une voix rauque et fatiguée. « Parce que si ce n'est pas le cas, je préférerais que vous... » Irène sortit de son sac les deux boîtes à bijoux contenant la médaille de Saint-Christophe et la bague de fiançailles.
« Je me suis dit que vous voudriez les récupérer, »
murmura Irène en les posant sur la troisième marche à côté de la clé.
« Oh !» fit Carla, bouche bée. « Sa médaille !»
Elle se leva à toute vitesse, dévala l'escalier et se jeta sur la petite boîte qu'elle serra contre sa poitrine.
« Vous l'avez retrouvée ?»
chuchota-t-elle avec un grand sourire, tandis que les larmes roulaient sur ses joues.
« Je n'arrive pas à y croire !»
Elle voulut attraper la main d'Irène, mais cette dernière fit un pas en arrière.
« Je ne l'ai pas retrouvée !» déclara Irène d'un ton neutre. « On me l'a donnée. Laura me l'a donnée.
Laura Kilbride, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Mais Carla écoutait à peine. Elle s'était rassise sur la troisième marche à présent et avait ouvert l'écrin sur ses genoux. Elle prit le médaillon en or, le fit tourner quelques instants entre ses doigts et le pressa contre ses lèvres. Irène l'observait, fascinée par cet étalage de dévotion inattendu. Elle se demanda si Carla était devenue folle.
« Laura, » répéta-t-elle, « la fille qui a été arrêtée. La médaille et la bague se trouvaient dans le sac que Laura vous a volé. Carla, Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ?
Toujours aucune réaction.
Vous aviez laissé votre sac ici, dans l'entrée, sans surveillance. La porte était entrouverte. Laura l'a vu et l'a pris. Elle avait des remords, alors elle m'a rendu ces objets, sauf que... Oh, mais mince à la fin, Carla !
Surprise, Carla releva la tête.
Quoi ? Vous allez vraiment rester assise là, comme si de rien n'était ? Vous allez vraiment lui laisser porter le chapeau ?
Carla secoua la tête et posa à nouveau les yeux sur le médaillon.
« Je ne vois pas ce que vous voulez dire, »
marmonna-t-elle.
« Ce n'est pas Théo qui a tué ce garçon, c'est vous. C'est vous qui avez assassiné Daniel. »
Carla cligna lentement des yeux. Quand elle releva la tête vers Irène, son regard était vide, son visage impassible.
« Vous avez tué Daniel et vous comptiez laisser accuser Laura, » dit Irène. « Vous comptiez laisser une innocente payer pour votre crime. » Est-ce que vous savez qu'elle a été victime d'une grave agression au centre de détention ?
La voix d'Irène avait gagné en intensité.
Est-ce que vous savez que ses blessures sont si sérieuses qu'on a dû la transférer à l'hôpital ?
Tout ça n'a rien à voir avec moi, dit Carla, tête basse.
Bien sûr que si ! Tonna Irène, et sa voix résonna dans la maison vide. Vous aviez vu son carnet ? Vous pouvez nier, ça ne fait aucune différence. Moi aussi, j'ai vu ce qu'il a dessiné, ce qu'il a imaginé.
Ce qu'il a imaginé ?
Répéta Carla d'une voix sifflante, le visage soudain crispé par la rage. Irène fit un pas en arrière et se rapprocha de la porte. Alors qu'elle se trouvait au milieu de cette entrée déserte, elle se sentit soudain déracinée. Elle avait besoin de s'asseoir, de se reposer, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Mais ce n'était pas le moment de flancher. Elle se redressa, se mordit la lèvre et, tenant son sac contre sa poitrine comme un bouclier, elle s'approcha à nouveau de Carla.
« J'ai vu ce qu'il a dessiné, » répéta-t-elle. « Comme vous, et comme votre mari, avant qu'il jette les pages au feu. »
Carla frémit en entendant cela. « Théo a vu les dessins ?» demanda-t-elle, sourcils froncés.
Mais le carnet est ici, il est...
Oh ! Elle soupira avant de lâcher un petit rire sans joie.
Il n'est plus ici, n'est-ce pas ? Vous le lui avez donné, vous le lui avez montré.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris, enfin ? Pourquoi faut-il toujours que vous cherchiez à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ? Vous êtes vraiment une emmerdeuse de première. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?
Qu'est-ce que j'ai fait, au juste ?
S'exclama Irène, piquée au vif.
Je vous en prie, Carla, éclairez ma lanterne !
Carla ferma les yeux et secoua la tête comme un enfant en colère.
Non ? Et si je vous disais plutôt ce que vous, vous avez fait ?
Cracha Irène.
Vous avez vu les dessins de Daniel. Vous en avez déduit qu'il avait tué votre fils et vous l'avez assassiné. Le couteau que vous avez utilisé se trouvait dans le sac que Laura a volé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez elle. Et ensuite, votre mari, enfin votre ex-mari qui, allez savoir pourquoi, vous aime plus que tout au monde, a décidé d'intervenir et de porter le chapeau seul. Et vous, vous faites comme si ça ne vous concernait pas. Vous ne ressentez donc rien ? Vous n'avez donc pas honte ?
Carla fixait le médaillon entre ses doigts. Elle rentra la tête dans les épaules.
Si je ne ressens rien, gronda-t-elle. Mais merde, Irène, vous ne croyez pas que j'ai déjà assez souffert comme ça ?
Irène savait qu'elle touchait au nœud du problème. Après ce que Carla avait enduré, comment pouvait-elle encore être sensible à quoi que ce soit ?
Je sais bien que vous avez beaucoup souffert,
dit Irène, mais Carla n'était pas d'humeur à se laisser amadouer.
Vous ne savez rien du tout,
cracha-t-elle.
Vous ne pouvez même pas imaginer.
Votre peine, compléta Irène. Effectivement, Carla. Peut-être que je ne peux pas l'imaginer, mais vous croyez vraiment que le fait d'avoir perdu votre fils d'une manière aussi tragique vous donne tous les droits ?
Irène vit Carla se ramasser sur elle-même en tremblant de rage ou de chagrin, comme si elle se préparait à bondir. Mais Irène ne comptait pas se laisser intimider. Elle poursuivit.
Sous prétexte que vous avez traversé un drame épouvantable, vous croyez que vous pouvez tout détruire et faire ce qui vous plaît ?
Ce qui me plaît ? Carla attrapa la rampe et se leva. Debout sur la troisième marche, elle dominait nettement Irène.
Mon fils est mort. Ma sœur est morte sans que j'aie pu lui pardonner. L'homme que j'aime va aller en prison. Vous croyez vraiment que j'en tire le moindre plaisir ?
Théo n'ira pas forcément en prison. Vous pouvez empêcher ça.
À quoi bon ? Qu'est-ce que... commença Carla. Mais elle s'interrompit avec un soupir de mépris.
Ça ne sert à rien que j'essaie de vous expliquer. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'aimer un enfant.
Encore et toujours la même conclusion. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas une mère. Vous n'avez jamais connu le véritable amour. Vous n'êtes pas capable d'éprouver un amour infini et inconditionnel. Et par ricochet, une haine absolue. Irène serra et desserra les poings.
Peut-être que vous avez raison sur ce point. Mais envoyer Théo en prison, c'est de l'amour, ça ?
Théo comprend, répondit Carla. S'il a effectivement vu le carnet de Daniel, alors bien sûr qu'il comprend pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et vous, qui me regardez avec toute votre indignation et toute votre suffisance, vous aussi vous devriez comprendre, parce que je ne l'ai pas fait seulement pour Ben, mais aussi pour Angela.
Irène secoua la tête, elle n'en croyait pas ses oreilles. Vous allez vraiment me dire que vous avez tué Daniel pour Angela ?
Carla tendit la main et, avec une douceur surprenante, la posa sur le poignet d'Irène avant de refermer les doigts autour et d'attirer Irène vers elle. « C'était quand, à votre avis ? » murmura-t-elle d'un ton plein d'espoir. « Quand est-ce qu'elle a compris ?»«
Compris quoi ?»«
Ce que Daniel avait fait. Ce qu'il était. » Irène se dégagea vivement. « Non, il était impossible qu'Angela ait su. » L'idée qu'elle ait vécu avec ça était trop horrible. Non, c'était inenvisageable. Et puis de toute façon, il n'y avait rien à savoir, si ?
Ce n'est qu'une histoire, affirma-t-elle. Daniel a écrit une histoire, peut-être pour essayer de surmonter un traumatisme survenu dans son enfance, et, pour une raison ou pour une autre, il a décidé de se donner le rôle du méchant. Peut-être qu'il éprouvait de la culpabilité, peut-être qu'il regrettait de ne pas avoir su protéger Ben. Ou peut-être que cet accident était en fait une erreur.
Elle avait en partie conscience qu'elle essayait de se convaincre elle-même.
Oui, peut-être que c'était une erreur,
reprit-elle.
C'était un enfant. Il ne pouvait pas imaginer les conséquences de son geste.
J'y ai pensé, rétorqua Carla. J'ai pensé à tout ça, Irène, je vous assure. Effectivement, à ce moment-là, Daniel était un enfant. Mais que dire de ce qui s'est passé ensuite ? Admettons que vous ayez raison et que c'était un accident, une bêtise. Ça n'explique pas la façon dont Daniel s'est comporté après. Il savait que je tenais Angela pour responsable de ce qui s'était passé. Et il m'a laissé faire. Il m'a laissé la haïr, il a laissé Théo la rejeter. Il l'a regardé se faire écraser lentement par le poids de sa propre culpabilité, et il n'a rien fait. Ou plutôt si, il a aggravé les choses. Il a dit à sa psy qu'Angela était responsable de la mort de Ben, et il m'a fait croire qu'elle le maltraitait. Tout ça, c'était... je ne sais même pas ce que c'était pour lui. Un jeu, peut-être ? Il a joué à nous manipuler, tous autant que nous étions, pour s'amuser. Ou pour se donner un sentiment de puissance. C'était monstrueux, impensable. Quel esprit tordu pouvait inventer des choses pareilles ? L'espace d'un instant, Irène se surprit à croire que c'était peut-être Carla qui avait l'esprit monstrueusement tordu. Son interprétation des événements n'était-elle pas aussi perturbante que les dessins dans le carnet de Daniel ? Et pourtant, quand Irène repensait à Angela, à la façon qu'elle avait de pester contre ce fils dont elle regrettait la naissance, elle devait bien reconnaître que la version de Carla sonnait terriblement vraie. Irène repensa au réveillon de Noël annulé, où Angela avait osé se montrer jalouse de la stérilité d'Irène. Et elle repensa au surlendemain, quand elle était venue s'excuser. « On leur souhaite d'être heureux, tout simplement », avait-elle dit, « et on serait prêt à mettre le monde à feu et à sang pour ça ». Carla remonta l'escalier d'un pas lent, puis,
Arrivée sur la dernière marche, elle se retourna une dernière fois vers Irène.
« Donc vous voyez, je l'ai fait en partie pour elle.
C'est horrible, non, quand on y pense. J'ai tué son fils pour elle. Et pourtant, c'est vrai.
Je l'ai fait pour moi, pour mon fils et pour Théo, bien sûr. Mais je l'ai aussi fait pour Angela, parce qu'il a détruit sa vie. »
Irène poussa la porte de chez elle en songeant que, même s'il était franchement pénible de se savoir toujours considérée comme une petite vieille distraite, étourdie et un peu bête par des gens comme Carla, cela pouvait aussi avoir ses avantages. Là, par exemple, elle s'estimait heureuse que Carla la voie comme une personne avec déjà un pied dans la tombe, une personne vivant en dehors du monde et de tout ce qui constituait sa complexité. Les progrès technologiques, les gadgets, les smartphones, les applications, les mémos vocaux.